Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans la seconde partie d'Okapi Service. Nous parlons d'un secteur encore peu développé mais porteur d'opportunités, le tourisme. Le métier de guide touristique peut-il offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en RDC? Nous recevons pour en parler Alan Lofoli Mungu, président de l'association des guides touristiques de la RDC. Il est lui-même guide de tourisme urbain et cadre à l'Office national du tourisme. Monsieur Lofoli, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, madame Jocelyne. J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, merci. On va démarrer dans la bonne humeur cette émission. Si vous voulez participer, chers auditeurs, vous pouvez vous enregistrer à notre numéro, vous le savez, 085 42 11 547, 085 42 11 547, ou nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. À la technique, Sylvain Baoguere et Esther Mamboté assurent le live sur nos réseaux sociaux. La réalisation est signée Benjamin Moudoumbi sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussa au Fondé. Je vous présente cette émission. Radio Okapi. En RDC, beaucoup des jeunes cherchent un emploi ou une activité génératrice de revenus. Parmi les métiers encore méconnus figure celui des guides touristiques. Pourtant, ce métier peut contribuer à la valorisation du patrimoine culturel, historique et naturel du pays tout en créant des emplois. Mais concrètement, que fait un guide touristique? Peut-on vivre de ce métier en RDC? Quelle formation faut-il suivre et comment développer une véritable culture touristique dans notre pays? Pour en parler, je l'ai dit, nous recevons Monsieur Alan Lofoli Mungu. Il est président de l'association des guides touristiques et lui-même guide de tourisme urbain. Il cadre à l'Office national du tourisme. Monsieur Lofoli, qu'appelle-t-on exactement un guide touristique?
Alors voilà, de manière très résumée, le guide touristique est une personne qui accompagne des visiteurs, des touristes, qui explique, qui facilite la découverte d'une destination, c'est-à-dire une ville, un site touristique ou bien une attraction touristique. Au fait, le guide touristique est un miroir de la destination, c'est une porte d'entrée. Il interprète au fait la culture d'un peuple, il interprète la gastronomie, il interprète l'histoire. D'une destination comme la nôtre par exemple, avec cette richesse, cette diversité culturelle que nous avons, une gastronomie extraordinaire, plus de 9 parcs nationaux, plus d'une soixantaine de réserves et domaines de chasse. Donc voilà, le guide, il a pour travail de faire découvrir au fait tout ce fort potentiel touristique auprès de ceux qu'on appelle les visiteurs en termes techniques ou les touristes.
Alors, vous êtes guide de tourisme urbain. Quelle différence avec un guide touristique classique, on va dire?
Voilà, dans le guidage, il y a plusieurs types de guides. Nous avons ce que nous appelons les éco-guides, par exemple. Eux, ils font spécialement le travail de guide dans les milieux naturels ou écologiques. Par exemple, les éco-gardes aussi, ce sont des éco-guides également, généralement. Il y a ce que nous appelons les guides de musée. Ils sont là pour interpréter les œuvres, interpréter toute cette valeur, ce patrimoine culturel que nous pouvons posséder dans un musée. Il y a ce qu'on appelle des guides accompagnateurs. Ils ne sont là que pour accompagner des groupes de touristes, mais peut-être pas faire l'interprétation de ce qu'ils voient, par exemple. Ils accompagnent tout simplement. Il y a ce qu'on appelle des guides interprètes, mais aussi le guide urbain. Le guide urbain, c'est celui qui accompagne des visiteurs dans un milieu urbain, dans une ville généralement. Et ils font découvrir aux touristes le patrimoine institutionnel, le patrimoine historique de la ville, la culture de la ville. Ils vont plus loin à faire découvrir, les arts et les métiers, mais aussi la gastronomie. Je vais vous faire rire. Une fois, j'ai amené des touristes manger de la sauce, du poulet à la moimbe, na makayabu. Le gars, il s'attendait que, bon, on ira dans un restaurant, VIP, etc. Moi, je dis donc, pour découvrir le vrai Kinshasa, il faut aller, par exemple, à Banganda Taba. Pourquoi pas aller manger le poulet mayo à Bandal? Pourquoi ne pas aller chez Yolo Kapela pour en revenir à Ngulu Kapela?
Oui.
Et ça, c'est
ou
le métier.
Ou sur l'Éthiopie pour manger les Thompson.
Voilà.
Oui.
C'est-à-dire le vrai Kinshasa.
Oui.
Le vrai Kinshasa, le Kinshasa chaud. Le Kinshasa chaleureux, le Kinshasa by night aussi, pourquoi pas. Et ça, c'est le travail d'un guide urbain. Mais je peux faire de l'éco-guide, parce que j'ai une formation également d'éco-guide, mais ma spécialité, au fait, c'est le côté
urbain. Alors, le métier de guide semble être peu connu en RDC. Pourquoi cet état des choses?
Alors, si vous le permettez, je voudrais... donner un petit aperçu de l'histoire de ce métier, si vous le permettez rapidement.
Bien sûr que oui.
Le métier de guidage ou de guide touristique a vu le jour dans l'Antiquité. Parce que certains pensent que le tourisme est une activité d'aujourd'hui, actuellement, non. À l'Antiquité, tous les commerçants, tous ceux qui faisaient des voyages de commerce, des voyages de pèlerinage, n'est-ce pas, avaient besoin des personnes, des milieux où qu'ils visitaient, qui connaissaient les langues, qui connaissaient les routes surtout, n'est-ce pas, afin de les guider. Donc le métier de guide a vu le jour déjà à l'Antiquité. Mais de manière plus moderne, on parlerait d'un monsieur qui s'appelle Thomas Cook, qui est, disons, le père du tourisme moderne, parce que c'est un Anglais qui a organisé pour la toute première fois des activités touristiques de masse. Avec un package, c'est-à-dire tout inclus. C'est pourquoi il est représenté aujourd'hui comme le père du tourisme moderne. Et en 1841, il a organisé le tout premier circuit, l'excursion, c'était par train, toujours en Grande-Bretagne. Et un peu plus tard, il va organiser ce qu'on appelait le Grand Tour. C'est-à-dire, il prenait surtout les aristocrates, les jeunes également, les jeunes aristocrates français, italiens, etc., pour faire le tour du monde. Au fait, comme ils avaient des moyens, leurs parents permettaient qu'ils aillent comme ça dans des voyages, afin qu'ils puissent rallier la théorie à la pratique. Ils faisaient des voyages d'une année, de 2 ans, de 3 ans. Bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on définit le tourisme, on dit il ne faut pas que ça prenne une durée qui va... plus de 365 jours. Là, ce n'est plus le tourisme aujourd'hui par rapport à la définition actuelle. Mais ce métier a vu le jour dans l'Antiquité, mais de manière un peu plus moderne, on le situe à 1841. Okay. Voilà, au 19e siècle. Maintenant, la question, c'était pourquoi ce métier est peu connu. Vous savez, depuis que le Congo est Congo, madame, le secteur du tourisme n'a pas été très bien organisé jusqu'en 2018. Pourquoi je dis jusqu'en 2018? Parce que c'est en 2018 qu'il y a eu la loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme, la loi 018 de 2018. C'est dans cette loi où l'on parle même des référentiels des métiers du tourisme, alors que nous avons eu des parcs. Nous avons toute cette merveilleuse nature, nous avons le fleuve, nous avons une culture assez riche, nous avons des parcs où il y a des guides, mais le métier de guidage ne se retrouve même pas dans le référentiel du ministère du Travail. Allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire que pendant longtemps...
Le métier n'est pas reconnu, n'est pas valorisé.
Voilà. Raison pour laquelle d'ailleurs que nous avons créé en fait l'association Mbote, l'association des guides touristiques du Congo, ça fait 2 ans que nous avons créé, et si tout va bien, peut-être avec l'accompagnement de Radio Okapi, nous allons faire le lancement officiel. Donc c'était un problème d'organisation du secteur, parce que le guide, comme j'ai dit, c'est le miroir, c'est la porte d'entrée. Le touriste, il arrive, mais c'est le guide qui va lui faire découvrir la destination. Mais ce métier n'est pas connu parce que le secteur lui-même n'a pas fait en sorte qu'on puisse parler du guide touristique. Raison pour laquelle nous nous sommes dit non, mais moi ça fera 20 ans que je suis dans le secteur du tourisme. Alors on a dit non, ça en est un peu assez, on en a assez. Pourquoi ne pas créer une corporation qui fera parler de ce métier.
Et vous pensez que le tourisme peut être un secteur porteur en RDC?
Effectivement, madame, si tel n'était pas le cas, j'allais pas embrasser ce métier. Le tourisme, pour moi, d'abord, c'est une passion. Hein, s'il faudrait cadrer les choses. Mon père, il a travaillé dans le secteur jusqu'à sa retraite. Donc, j'ai baigné. Je suis un peu un obélix voilà. Alors, lorsque j'ai fini l'université, je me suis dit, tiens, je peux suivre le chemin de mon père. Parce que j'ai vu comment est-ce que le gars, il faisait... bon, coucou papa, si tu me suis. Il faisait le tour du pays, mais aussi le tour du monde. Et je me suis dit, tiens, c'est un métier intéressant. Et je m'y suis adonné à plein de corps. Alors, oui, madame, le tourisme aujourd'hui constitue le secteur le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le monde. Je souligne, dans le monde.
Ok.
Le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le monde, c'est le secteur du tourisme. Et en termes de PIB mondial, il vient à la troisième position, je crois, après l'industrie pharmaceutique et l'industrie automobile. Allez-y comprendre quelque chose. Il y a des pays comme la France, le premier pays récepteur du tourisme mondial, qui vous fait des milliards en termes d'entrée. Et qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est généralement l'artificiel. C'est la culture. C'est la Tour Eiffel. 19e siècle, là. Hein? Je crois 1893 ou 98. Mais jusqu'aujourd'hui, le prix le moins cher pour faire la Tour Eiffel, c'est, je crois, c'est 10 dollars, 10 euros. Plus vous montez de niveau, ça, vous imaginez.
Et c'est tous les jours que les gens visitent.
C'est tous les jours. Alors que nous avons le site de la reconstruction, qu'on appelle communément échangeur de l'IMETE, qui est en train de chômer.
Oui.
Vous comprenez? Alors, oui, madame, le secteur du tourisme est capable, n'est-ce pas, d'apporter du cash à cause de sa dimension multisectorielle, de sa dimension transversale. Le tourisme est un secteur transversal. Pour qu'un touriste vienne dans votre pays, il se dit comment je vais y arriver, c'est-à-dire le transport.
Le transport.
Je salue ici le Congo qui fait un effort. Bientôt, on aura un avion qui ira à l'international. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un prend notre airlines nationale. Il paye.
Il paye.
Les affaires étrangères, il paye pour avoir son visa.
Son visa, oui.
Il arrive, le taximen
de l'aéroport. À l'hôtel.
Il paye. Ou l'agence de voyage, il paye. Il arrive, il se dit, je vais habiter où? C'est l'hôtel, généralement. Oui. Il paye. Qu'est-ce que je vais manger? Il paye. Ce n'est qu'à la fin qu'il
se dit,
qu'est-ce que je vais visiter?
Il doit visiter aussi le pays.
Vous voyez? Il paye. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, de moins en moins, on prend les SIM. Mais il y a quelques années, lorsque j'arrive dans un pays étranger, la première des choses, je prends la SIM. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, pour avoir l'Internet du pays, c'est-à-dire la com se retrouve.
Oui.
Vous comprenez? Il y a même ce qu'on appelle les emplois induits. Il y a des emplois directs que le tourisme génère, mais il y a des emplois induits. Le pêcheur qui fait, comment ça s'appelle, la rivière Njili, qui vend chaque jour son poisson chez Safari Beach.
Ou à Kinkole, ou voilà. Manger les maboké.
Safari Beach offre un emploi indirect à ce monsieur, parce qu'il sait que chaque jour ou chaque deux jours, je dois apporter du poisson frais, mais il ne travaille pas chez Safari Beach. Vous comprenez? Le monsieur, s'il avait des euros ou des dollars, je ne sais pas moi quoi, il doit changer.
Oui.
C'est la banque. Vous comprenez, madame, que moi, je regrette lorsque les gens parlent du tourisme comme si c'était le dernier des secteurs qui générateur de richesses. Le président de la République, que nous saluons respectueusement, a dit, dans, je crois, son huitième pilier, que le tourisme doit être, doit être un instrument, n'est-ce pas, de la croissance économique nationale. Madame, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Le Kenya, ici, le Kenya n'a pas de coltan. Le Kenya n'a pas de, je sais pas moi, de mercure ou quoi. Mais le Kenya, si vous voyez aujourd'hui, ils font ce qu'ils font avec leur ligne aérienne, c'est parce que il y a le tourisme. Le tourisme, aujourd'hui, si on dit plus de tourisme au Kenya, le Kenya est foutu. Mais le Congo, nous avons tout. Je vais vous faire rire, Madame Jocelyne. Il faudrait me couper la parole parce que lorsque je parle...
On va rigoler après.
Heureusement.
C'est tout de suite de Blaise Atoubou qui nous appelle depuis Kisangani dans la Tchopo. Bonjour Blaise Atoubou.
Oui, bonjour Madame Jocelyne. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Ainsi qu'auditrice, auditrice de la Radio Capi. Auditeur, auditrice de la Radio Capi.
On vous écoute, Blaise Atoubou.
Oui, merci Madame Jocelyne. Je dois aller tout juste à quelques préoccupations. D'abord, je déplore l'inefficacité de nos services, puisqu'ils ne veulent pas vraiment mettre la valeur à ceux qui doivent amener l'argent, c'est-à-dire le tourisme. Je suis dans la ville de Kisangani, où il y a Chitowagenya. Est-ce que réellement cette partie, elle est vraiment bien entretenue pour que les gens quittent ailleurs, viennent regarder et payer? Donc, il y a problème de gouvernance, Madame Jocelyne. Donc, il y a des endroits où ça nécessite que l'apport des autorités urbaines, autorités provinciales, pour que les choses aillent de l'avant. Mais aujourd'hui, on reste toujours avec le minerai. Maintenant, là où ça pose un peu de problèmes, si aujourd'hui le minerai terminait, mais ça sera quoi? Ça sera un fiasco. Donc, il fallait toujours que les gens qui détiennent encore parcelles de pouvoir doivent avoir un moyen de créer d'autres mécanismes, Madame Jocelyne. Je dois aller tout juste à quelques questions à l'invité. La première question, quels sont les principaux obstacles au développement du tourisme congolais? C'est ça la première question. La deuxième question, que doivent faire les autorités pour attirer plus de touristes en RDC? Je me limite à ces deux questions, Madame Jocelyne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Blaise Atoubou, pour votre participation, pour vos questions également, Monsieur Lofoli. Qu'est-ce que vous dites à Blaise Atoubou? Quels sont les obstacles au développement du tourisme en RDC?
Alors, merci beaucoup pour la question. Il y a plusieurs obstacles. Pourquoi? Parce que, premièrement, le tourisme est un secteur transversal. Je salue ici les efforts qui sont fournis par le ministère du Tourisme avec son excellence M. Didier Mazenga, sans compter les efforts fournis par l'Office national du tourisme, qui est géré par une dame, hein, Madame Jocelyne, honneur aux dames, Madame Joliombo Mukendi, qui ne ménage aucun effort, qui font des efforts considérables pour transformer le secteur. Nous venons de très très loin, Madame. Je vous ai dit qu'il y a la loi aujourd'hui, 2018, la loi plutôt 018, qui gère maintenant le secteur, qui organise. Et ça, c'est le travail du ministère, c'est le travail de l'Office national du tourisme et tout le sectoriel. Alors, il y a plusieurs obstacles, j'en citerai quelques-uns. Il y a des obstacles infrastructurels. Pour aller aujourd'hui à Lola et à Bonobo, il y a quelques mois, la route était cassée. Mais ce n'est pas le travail du ministre du Tourisme. Il peut faire du lobbying, mais c'est les ITP. Vous comprenez?
Pour faire un aller-retour à Zongo, par exemple.
Il y a le problème de visa. Le visa congolais, il faut qu'on se le dise droit dans les yeux, le visa congolais est l'un des visas les plus chers. À l'époque où plusieurs pays, comment soit pour le visa touristique même, élagué carrément, ou à revoir à la baisse, le Congo traîne encore les pas. C'est un problème. Hein, pour avoir le visa congolais, ça coûte cher. Il y a un problème toujours en termes d'infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures d'accueil. Est-ce que vous savez, lorsqu'il y a eu la francophonie ici, il y a eu un problème par rapport aux restaurateurs congolais? Il y avait un déficit. C'est-à-dire, il n'y avait pas, par exemple, un restaurant qui était capable de prendre en charge tous les athlètes, par exemple, qui se retrouvaient à, comment ça s'appelle, Tata Raphaël ou à l'Uniki. Vous comprenez? Il y avait un problème de fourchette, un problème d'assiette, c'est-à-dire la capacité de fournir le service. Et ils ont fait venir, s'il vous plaît, des cuisiniers, des restaurateurs français. Mm. Il y avait un problème également d'expertise parce que les athlètes ne mangent pas n'importe quoi. Il y a le côté diététique, il y a tout ça. Mm. Donc c'est un frein. Je ne dis pas que nos restaurateurs sont ils ne savent pas faire leur boulot, non. Je dis simplement qu'il y a un problème de professionnalisation du secteur. Mm. Et directement, je parle de problème d'hommes. Il faudrait que le secteur soit composé des professionnels. Mm. Combien des hôtels ici font signer des contrats à leur agent? Femme de chambre, lavandier, mm-hmm. concierge, combien? C'est seulement, Jocelyne, mm-hmm. Gabi Adosani Mikolo, mm-hmm. Ça est l'hôtel, mm-hmm. Gabi pas dans la quito, quoi, ah ouais, vous servir. Mm-hmm. Alors, Gabi arrive dans l'hôtel, elle ne sait pas comment on tient les verres, elle mm-hmm. ne sait pas telle fourchette, mm-hmm. c'est un problème. Mm-hmm. Et tu verras, le client, il va, il y a plusieurs sites là, il écrit, non, écoutez, le travail là-bas,
il donne un avis négatif.
Un avis négatif. Mm. Il y a un problème d'aménagement des sites. Mm. Il y a un problème d'animation. Mm-hmm. Ici, je salue Kinévasion, un ami qui organise des belles choses. Et un jour, nous sommes allés dans un site, je ne citerai pas le nom pour ne pas déranger. Oui. L'ami a organisé Kinévasion dans ce site-là. Mais après, nous sommes revenus dans le même site. Et vous avez l'impression que c'était deux sites différents. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que Kinévasion a apporté un plus-value. Mm. Le côté animation. Mm-hmm. Le site peut être beau, mais lorsqu'il n'y a pas des activités, n'est-ce pas? Les gens, ils viendront aujourd'hui, mais demain, ils ne viendront plus parce que ce n'est pas animé. Il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a pas de nouvelles attractions. Vous voyez? Donc, il y a tous ces problèmes. Il y en a plusieurs. Il y a le problème d'insécurité. Mm. J'aime pas trop marteler sur ce problème parce que on a l'impression que le Congo est un pays fermé aujourd'hui. Et je le dis à travers Radio Okapi, venez. Le Congo est un pays ouvert, hospitalier, bien que nous avons un problème à l'Est.
Mm. Mais il y a d'autres sites à visiter dans le Haut Katanga,
Le Congo les chutes central. De Kyobo, mm-hmm. vous pouvez aller chute de Wagenya, mm-hmm. comme l'a souligné le monsieur tout à l'heure. Vous pouvez aller madame, une fois je suis allé à Zongo avec des Namibiens, ils ont dit mais c'est waouh, c'est très beau. Mm. Vous pouvez aller dans les grottes de Gungu, de Manzangu plutôt, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous pouvez aller les chutes de Kakobo là, dans le Kwilu, c'est magnifique. Donc, le Congo a ses problèmes, comme tout autre pays. Mm-hmm. Il y a des capitales plus dangereuses que Kinshasa. Mais ils ne vont pas vous le dire. Mm. Le Congo est ouvert, le Congo a de quoi présenter à la face du monde. Et j'ai l'habitude de dire RDC plus qu'un rêve. Au Lotanayo, mais Yaka, au revivre Maramoussou na Congo.
D'accord, monsieur Le Folie, nous allons prendre d'autres auditeurs en ligne qui veulent intervenir dans cette émission. Il a parlé des obstacles, deux questions, malheureusement, on n'a pas noté la deuxième. Jeannot Louembwe nous appelle depuis le Lualaba. Bonjour.
Madame, je vous salue.
Bonjour, monsieur Jeannot Louembwe.
Madame, je vous salue. Vous m'entendez bien, je crois. Hein?
Nous vous saluons aussi. On vous capte 5 sur 5.
Oui, je pense que nous parlons du tourisme, hein, parce que je viens de vous prendre en cours.
Bien sûr, oui.
Du guidage.
Voilà.
Du guidage. Le métier de guide touristique peut-il offrir des opportunités d'emploi aux jeunes en RDC? Et nous sommes avec monsieur Alan Lofoli Mungu. Il est président de l'association des guides touristiques de la RDC. Il est lui-même guide de tourisme urbain et cadre à l'Office national du tourisme.
Merci beaucoup. Merci pour cet appel. Alors, je dis déjà oui, il est possible que, dans ce sens-là, les Congolais puissent trouver du travail si, et seulement si, on y mettait du sérieux, qu'on en fait avec la politique, avec le minerai, le secteur le minier. Mm. Sauf que chez nous, nous avons comme l'impression que nous ne sommes pas faits pour transformer la cité. Parce que parlons du tourisme, ce ne sont pas les sites touristiques qui manquent au Congo. Mm-hmm. Mais ce sont des Congolais qui n'ont pas la volonté d'innover, de s'intéresser un peu à ces secteurs-là. Mm. Ceux qui doivent normalement faire que ces secteurs soient attrayants, intéressants, comme on les voit ailleurs, ce sont les politiques. Mm. Mais regardez un peu le bois dans lequel se trouvent les politiques. Ils sont plus intéressés à autre chose, besoin personnel, que dans ce qui devrait être à l'avantage de tous les Congolais. Nous, nous sommes un peuple qui est là seulement à apprécier ce que font les autres. Alors que ces autres n'ont rien de spécial que nous n'avons pas. À part peut-être la volonté et le vouloir faire, madame. Voyez, regardez, nous avons, comme je l'ai dit, un pays immensement riche, avec plusieurs sites touristiques naturels, dont faits par Dieu. Mais ce qui nous manque, c'est aussi, comme je l'ai dit, le savoir-faire. Si nous avions le secteur de transport, comme on le voit ailleurs, vous faites le tour du pays par train, plus vous pénétrez dans des zones forestières, vous découvrez des espèces d'animaux, vous découvrez donc la faune et la flore. Qu'est-ce qui nous manque à pouvoir faire ça? La volonté et le savoir-faire. Ça, nous sommes un peuple orgueilleux. Laissez-moi vous le dire comme ça. C'est-à-dire, on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire, mais on fait croire qu'on sait. Mais si on sait, pourquoi on n'arrive pas à exécuter cela depuis 1960? Oui, tout le monde aujourd'hui, ça court vers le minerai parce que ça rapporte vite. Voulons juste manger, passer à table sans savoir retrousser le manche pour pouvoir cuisiner. Oui, donc nous perdons, nous sommes un peuple qui est en train de perdre le temps aujourd'hui. Si, je sais que ce sera impossible, nous faisons que ce peuple-là que nous envions vienne ici et que nous allons chez eux. Ce peuple viendra transformer, faire paradis la RDC. Et vous allez voir que, très souvent, je me dis, peut-être l'erreur hein, que nous avions commise dans l'ensemble en tant que Congolais, c'est d'avoir préféré refouler, chasser ceux qui avaient l'intelligence de la transformation de la cité. Nos frères de terre belges, peut-être. Je ne veux pas entrer dans la polémique, mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller depuis que nous étions restés seuls? C'est l'intelligence qui manque ou c'est les intelligences qui manquent? C'est quoi, au juste? Qu'est-ce qui est au-dessus de nous comme pierre tombale si lourde qu'on n'arrive pas à soulever pour sortir afin d'avoir les rayons solaires? Madame, c'est un secteur très intéressant, le tourisme, parce que ça nourrit et ça fait publicité de beaucoup de pays, mais chez nous ici, les yeux rivés vers la politique et vers le minerai. Et on est là, 65 ans après, en train de parler.
Des questions aussi, hein, Janol Mouéboué. Ah non, c'était juste votre contribution.
Non, je n'avais pas de questions, mais des regrets, madame. D'accord. Des regrets, parce que j'ai toujours été, je me suis toujours senti un peu honteux d'être Congolais, parce que un pays riche au peuple. Bon, pas, non, madame, laissez-moi vous dire la vérité. Je suis fier d'être Congolais, mais un peu honteux aussi, parce que nous sommes un pays riche au peuple aveugle qui marche avec la canne. Ouais, c'est un peu ça.
Merci.
Mais ou sinon, merci pour le choix fait sur le thème. Merci beaucoup.
Merci pour votre partage, Monsieur Janol Mouéboué. On va rejoindre Jonathan Bantu Scolastique, j'y arrive, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Jonathan, vais activer votre micro. Bonjour.
Eh bien, oui. Le sujet du jour est vraiment pertinent. Madame, vous me captez 5 sur 5?
On vous écoute, hein, monsieur Jonathan Bantu, Scolastique, depuis Lubumbashi. Allez-y.
Voilà, merci. Oui, la RDC, notre pays, chérie, dispose d'immenses richesses touristiques, mais beaucoup de jeunes ignorent encore les opportunités de ce secteur. Et une meilleure formation et une bonne promotion touristique peuvent créer des emplois et améliorer l'image du pays. Ainsi, la RDC possède un grand potentiel encore peu exploité, comme le chute d'eau. Je vois la chute Katende au Kasai Central, bien qu'inachevée. Il y a aussi les parcs nationaux, il y a les eaux, je vois là les eaux de Lubumbashi. Il y a les traditions culturelles, il y a des musées. Les métiers comme les guides touristiques, madame, permet aux jeunes de se désenclaver dans plusieurs domaines, comme le l'accompagnement des visiteurs, la traduction et interprétation, promotion culturelle, photographie et communication numérique, la restauration et j'en passe. Alors, quant à moi, je trouve que l'État doit revoir les infrastructures, particulièrement les routes qui mènent à ces sites touristiques et à en améliorer le confort. Allez-y voir, madame, la route qui mène à la chute Katende. Vous allez vous-même regretter. Allez-y voir la direction de lac Mukamba. La liste est longue, je ne saurais pas. Maintenant, les deux questions, j'oriente vers les invités. Elles sont les suivantes. Que peut faire l'État pour que les touristes réduisent le chômage des jeunes en RDC? C'est la première question. La deuxième question, quels sont les sites prometteurs pour créer de l'emploi de jeunes en RDC? Merci beaucoup, j'ai remis le micro.
Merci beaucoup, Jonathan Bantou, scolastique depuis Lubumbashi. Nous allons lire la question de Eric Binene, qui est à Lomami et qui nous a écrit sur notre page Facebook, comment améliorer le tourisme si le gouvernement ne revoit pas les prix de visa et autres documents permettant de voyager à l'étranger. Monsieur Le Folie, votre réaction par rapport aux interventions de Jeannot, Jonathan, Eric et Blaise, à tout le monde, Blaise en a déjà répondu, à ces trois derniers intervenants. Comment vous réagissez et que répondez-vous à nos auditeurs?
En tout cas, je suis très content parce qu'il y a une sorte de sursaut, de réveil, surtout au sein de la jeunesse congolaise. Il est très important que nous nous approprions de cette richesse que des fois nous négligeons. Le tourisme congolais peut développer ce pays. Je le souligne, sans les minerais. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas des minerais, qui n'ont pas des bois comme nous, du bois, mais qui se développent simplement grâce à leur tourisme. Donc, c'est important de souligner. Alors, que peut faire l'État par rapport à la réduction du chômage? Nous sommes d'accord avec tous les interlocuteurs que le tourisme, le métier de guidage est un métier qui peut réduire, n'est-ce pas? Premièrement, à cause de cette particularité du secteur, cette transversalité. J'y suis arrivé. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le tourisme offre plusieurs filières. D'accord? Mais le guidage est l'un des secteurs importants parce que nous avons cette richesse, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à montrer à la face du monde. Nous avons une culture indescriptible avec plus de 450 ethnies. Ça signifie 450 langues, certains appellent dialectes. Moi, je dis toujours non. Si c'est chez nous, c'est dialecte, chez les autres, c'est langue. Ce sont des langues. Nous avons 450 musiques. Nous avons 450 minimum arts culinaires. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque ethnie a de quoi présenter. Que dire de la géographie du Congo? Madame, est-ce que vous savez que le Congo peut avoir une équipe de ski? Parce que nous avons le Rwenzori, avec plutôt le Nyiragongo. Non, Nyiragongo, le volcan, le Rwenzori. Avec ses neiges éternelles. Il y a même une équipe qui avait commencé à s'exercer avec des expatriés, mais à cause de la guerre, ça n'existe plus. Avec autant d'animaux endémiques, l'okapi, le bonobo, tout ce que nous avons ici dans ce pays. C'est-à-dire que il y a possibilité de former. Pour y arriver, premièrement, c'est la formation. Nous devons arriver à introduire le cours de tourisme dès l'école primaire. C'est vrai que nous avons géographie, nous avons histoire, mais l'histoire, qu'est-ce qu'on nous présente en l'histoire?
C'est
Napoléon Bonaparte. Mais quand est-ce qu'on nous parlera de Ngaliema, de Kimpavita, pas en passant, mais en profondeur? Ce sont là des choses qui peuvent intéresser et qui intéressent, madame. Nous avons des touristes qui viennent ici pour aller voir Nkamba. Ils ne sont pas kimbanguistes. Le tourisme religieux, n'est-ce pas, qui est l'une des premières formes de tourisme dans le monde. Dans l'Antiquité, les pèlerins y allaient, et surtout au Moyen-Âge. La Mecque, Jérusalem et Rome, la cité du Vatican. Vous voyez? C'est-à-dire que on doit commencer par former. Dès les primaires, mais aussi professionnaliser les institutions qui forment dans le secteur du tourisme et hôtellerie. Madame, nous avons des institutions qui forment, mais il y a un problème de professionnalisation. Ailleurs, lorsque vous avez une école d'hôtellerie, généralement ils ont un hôtel, Oui. Ils ont un restaurant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de théorie. C'est la théorie, c'est la pratique directement. Vous comprenez? Et même dans ce métier, le métier de guidage n'est pas une filière universitaire. Vous aviez posé cette question au début. D'ailleurs, je me suis rappelé.
Quelle formation
voilà.
il faut.
Le métier de guidage n'a pas une filière universitaire. Même en France, partout, il n'y a pas une université qui forme les guides. Mais vous devez premièrement être formé en tourisme. Vous avez les ABC, vous avez tout ce qu'il faut en tourisme. Et il y a des formations d'initiation au guidage. Où vous allez apprendre les techniques de guidage, où vous allez apprendre comment concevoir les circuits, l'animation des circuits. Vous voyez, ce sont là parmi les cours, les principaux cours. D'accord? Donc, il y a cet aspect de formation. Deuxièmement, comment réduire ce chômage en ayant des guides? Mais s'ils sont formés, il faudrait que l'État encadre. Il faut qu'il y ait des lois. Et dans la loi 018, on parle des licences. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est l'un des objectifs pour lesquels nous avons créé l'association. Il y a des expatriés qui viennent dans ce pays faire le guidage. Moi, je ne peux pas aller en France faire le guidage, on va m'arrêter.
Et qu'est-ce qui leur donne ce droit?
Ils viennent comme des touristes, ils écrivent, ils notent ce qu'on leur dit, et ils vont partager. Année, deux années après, ils reviennent. Avec un groupe, mais c'est lui le guide. Or, si le métier était
encadré,
et ici je salue encore une fois le ministre du Tourisme et même Madame Jolie Ombo de l'Office national du Tourisme, parce que les ministres passés ne nous ont pas donné l'agrément. Ça, je le dis clairement. Mais le ministre actuel, nous sommes dans la démarche pour avoir l'agrément pour faire un lancement officiel. Vous voyez? Alors, deuxièmement, c'est l'encadrement de l'État. C'est l'État qui doit donner des licences pour savoir qui fait le guide. Parce que, écoutez, un mauvais guide fait la mauvaise promotion de la destination. Aujourd'hui, avec les techniques, les nouvelles technologies de l'information, tout le monde a l'information. Si vous vous racontez des balivernes, le gars, il est là, il dit, mais ce monsieur, c'est un aventurier. Parce qu'au-delà de ce que lui, il lit, il faudrait que ce guide ait ce qu'on appelle le storytelling. Il doit emporter, il doit savoir raconter, faire voyager au fait ses visiteurs. Donc, l'aspect encadrement de l'État, l'aspect licence, n'est-ce pas? Et si ces choses-là sont organisées, pourquoi pas l'État pourrait également subventionner tous ceux qui vont créer des agences de guidage. Vous voyez? L'État peut subventionner en termes qu'on aura documents, qu'on aura licences, pourquoi pas, former également, parce que à l'Office national du tourisme, nous sommes capables également de former, nous formons les guides.
Créer les conditions aussi, vous avez parlé de problèmes d'infrastructure, il faut des routes pour accéder à certains sites.
Non, ici on parlait de, le monsieur avait posé la question de savoir
c'est que l'État peut faire
pour réduire le chômage à travers le guidage. Je répondais à cette question-là. Mais ce dont vous faites allusion, c'est comment faire pour que nous ayons un tourisme, que notre tourisme devienne une industrie. Parce que ailleurs, madame, le tourisme est toute une industrie, avec plusieurs maillons dans la chaîne industrielle touristique. Vous comprenez? Et l'État a déjà commencé, parce que j'ai aussi une casquette de l'État. L'État a déjà commencé en mettant les bases, c'est-à-dire la loi. Je crois que dans les jours à venir, il y aura également promulgation ou divulgation de la politique nationale du tourisme congolais. Vous voyez, l'État a déjà commencé même à faire des prospections. Bah, dernièrement, le ministre était en prospection un peu partout dans le pays. C'est pour voir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons ajouter, qu'est-ce que nous devons transformer. D'accord? Et quelqu'un avait posé la question, il disait, mais bon, qu'est-ce que l'État fait? Mais l'État, partout ailleurs, le tourisme ne se développe pas seulement avec l'État. D'ailleurs, en soi même, de par son essence, le tourisme est une activité privée. Mais l'État doit être là pour accompagner, encadrer, mettre les moyens. Ce ne sont pas les privés qui vont construire les routes, bien qu'aujourd'hui il y a des PPP aussi. Il peut y avoir des privés qui viennent pour construire des routes avec péage et tout ça. Alors, quelqu'un voulait savoir les sites de choix. Les sites de choix, par où commencer? Mais écoutez, si je dis par où commencer les sites de choix, Kinshasa, qui lui dira, mais comment il a parlé ce mot de Kinshasa à l'autre? Non, il faudrait dire que au Congo, nous avons des sites artificiels, nous avons des sites naturels, nous avons des sites industriels, nous avons des sites miniers. Et presque partout au Congo, vous retrouverez ces quatre types de sites. Mais le côté fort du tourisme congolais, c'est le côté écotourisme. D'ailleurs, je me rappelle, il y a une année où Goma, disons le parc de Virunga, a été plébiscité dans le top 10 des meilleurs sites mondiaux. Vous comprenez? Je crois que le Congo, le tourisme du Congo, pourra se développer premièrement à travers son écosystème. Parce qu'actuellement, le monde entier ne parle que du côté vert, de l'environnement, de la nature, alors que nous, nous avons, vous savez que 60%, non, je dirais même 90% de notre territoire est composé des aires protégées.
Alors, monsieur Lofoli, les Congolais, vous avez parlé des sites ailleurs qui sont vraiment valorisé et visité. Vous avez cité l'exemple de la Tour Eiffel et de l'équivalent ici au Congo qui n'est pas visité. On passe là chaque jour, on voit comment c'est vide et même enfermé, on va dire. Il y a des barricades et puis il y a des entrées, les entrées contrôlées et tout ça. Les Congolais ne visitent pas eux-mêmes leurs sites touristiques. Qu'est-ce qui explique cela?
Non, je ne dirais pas que les Congolais ne visitent pas. Lorsque vous allez chaque week-end...
Ou visitent peu, hein.
Lorsque vous allez chaque week-end à Kinkole, c'est plein.
C'est pour manger les poissons.
Oui, mais c'est une forme de tourisme. Hein.
Ouais.
C'est une forme de tourisme. Il faudrait dire que, madame, l'aspect moderne du tourisme est né aussi avec les congés payés. Là, nous sommes à l'époque de la Renaissance.
Ok.
En Europe, lorsqu'on a introduit les congés payés, et avec l'industrialisation également, l'arrivée des trains, bateaux à vapeur, mais aussi l'avion, voilà, c'est le tourisme moderne. Mais cet aspect est très important, l'aspect socio-économique. Vous savez, nous avons des sites dans notre pays qui coûtent aussi cher. Il y a des sites qui coûtent cher. Vous voyez? D'ailleurs, les sites les mieux aménagés coûtent cher, ne sont pas à la portée, la tarification n'est pas à la portée du Congolais lambda. Mais d'un autre côté, il y a un problème aussi de culture.
De culture, oui.
C'est pourquoi je parlais de la formation.
On est quoi, trop préoccupé par les basiques, par comment gagner, enfin comment manger, comment se faire soigner.
Ben lorsque le socio-économique ne suit pas, c'est difficile, madame. Vous allez payer $30 pour accéder et faire un safari quelque part, je ne citerai pas le nom, au moment où les enfants n'ont pas bouffé.
À la maison, on n'a pas mangé, oui.
C'est un problème. Mais d'un autre côté, je dirais aussi que c'est un problème culturel. J'ai toujours cet exemple que je donne partout lorsque je passe. J'ai posé la question à un gamin qui habite la Gombe. Est-ce que tu as déjà vu le fleuve Congo? Il me dit, non, tonton, j'ai jamais vu le fleuve. Je regarde son papa. Je lui pose la question. Pour faire visiter ce petit, le fleuve, qui se trouve derrière vos immeubles, il te faut combien?
Ou le Beach Ngobila, tout simplement.
Il te faut un petit taxi, peut-être, pour aller jusque le côté de la raquette, ISP et tout ça. Un petit sucré, un petit gâteau, c'est-à-dire moins de $5, ton fils...
Il
n'y
a pas forcément l'argent.
Non, je donne le fleuve. Parce qu'il me parle, il me dit, bon, tu vois, des fois, l'argent. Je dis, ben, tiens. Là, le fleuve. C'est-à-dire que c'est un problème de culture. Toi, tu n'as pas la culture de l'évasion et tu veux transmettre à ton fils. Donc, ça aussi, c'est un problème.
Ou pour voir la première paroisse protestante qui est dans la
Gombe. Voilà, 1914, CBFC Gombe et tout ça.
C'est un site.
Oui, patrimonial.
Où on accède
de tourisme mémoriel également. Hein, vous voyez, pour faire le tour, voir le mémorial du soldat congolais, ça coûte quoi? C'est aussi le tourisme culturel. Vous voyez?
Ou l'immeuble Forescom.
Voilà, ou l'immeuble Forescom. Moi, je l'appelle le tout premier gratte-ciel de l'Afrique centrale. Vous comprenez? Ce sont des choses, ça c'est le côté culturel. C'est-à-dire que malgré qu'on a l'argent, le tourisme n'est pas seulement VIP. Il existe le tourisme VIP, mais il existe aussi le tourisme social ouvert à tout le monde. Et ça, c'est un problème de culture. Nous devons commencer dès le bas âge, école primaire, université, et etc.
Nous avons Ismaël Mopoi qui est en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, madame Jocelyne, le premier des jours à l'invité.
On vous écoute, monsieur Ismaël.
C'est une très bonne thématique, mais je vous donne un peu un témoignage. C'était en 2015 qu'on a débattu sur Parole aux auditeurs avec Pierrot et la Mengi. Donc j'avais donné certains pays, il y avait l'Allemagne, Brésil, il y avait la France, où pour l'Allemagne, ils pouvaient faire 600 millions de dollars par mois pour le tourisme. La France est visée par rapport à ses infrastructures. Nous avons aussi notre Brésil qui est comme la mer de la verdure que nous avons dans le monde et l'Amazonie. Vous voyez, à ce niveau-là, quoi que ce soit, je vous dis, ces domaines demandent et les moyens et la volonté et une politique bien fixe vis-à-vis du tourisme. Vous voyez, même, je compare un peu ces domaines par rapport aux... Ça fait partie aussi du tourisme, les bâtiments que nous avons. Venez un peu ici au Katanga. Je ne sais pas si madame Moussaou, tu as été une fois ici au Katanga. Bien au Katanga, ce n'est pas la ville de Lubumbashi.
Oui.
Commencez par Likasi, entrez Mwadingusha, montez vers Kasenga, entrez sur les pirogues, vers sur la rivière Luapul. Avant même d'y arriver, vous allez voir que le Congo en général est un site touristique. De ce fait, vous descendez sur la rivière Luapula, vous arrivez sur Kachobo, vous montez, vous allez du côté Mukupa, vous allez du côté Kilwa. Avant d'arriver même sur la rivière, vous arrivez sur les lacs Mwero. Mais je vous dis, nous avons des choses que nous, les autorités, ne mettent pas en œuvre. Mais si vous prenez la route, heureusement que l'office de route avait réhabilité cette route-là. Tout ça peut entrer l'argent en compte de la République démocratique du Congo. Tenez la recommandation que j'ai fait à ce, notre invité qui est là, qu'il se donne un peu de la charge. Nous avons les infrastructures routières. C'est ça la première chose. Parce que quitter Lubumbashi, là, se trouvait le site de Lumumba. D'ailleurs, ça pouvait être un site que tout Congolais pouvait faire envie d'y arriver et de spectacler ce qui s'était passé. Si vous allez du côté de celui qui a cité Chitkat et de les consorts, mais je ne sais pas ce que moi je peux dire. Pendant 18 ans, nous n'avons même pas connu quelques routes. Vous êtes à Kolwezi pour aller à Dilolo. Mais c'est là où le cœur du Congo, d'ailleurs, je ne sais pas même, il faut construire. Non, il ne faut pas construire. Ces gens-là peuvent seulement faire une route de 100 km de Lubumbashi vers Kasumbalesa, de Lubumbashi vers Kasenga, et l'argent entre sans visiter n'importe quel site. Ce que d'autres disent là, ce sont des choses, mais si on a des routes, les bâtiments, ça, ce sont des choses préliminaires plutôt que on a des caves, il y a des poissons même aveugles, du côté Bandundu, aller à Boula Bemba. J'ai visité même l'océan là où ça. Je vous dis, il faut qu'on ait d'abord les voies routières. Si on relie d'abord le Congo, le tourisme, c'est ça. Je n'ai pas une autre situation que ça. Merci. Ils ont une recommandation. Qu'ils fassent ça à ceux qui dirigent les pays pour qu'on ait d'abord la liaison de toutes les provinces. Je vais aller dans tel site, oui. À qui pousse-t-il ? Je vous dis, il y a des plages naturelles ici à Lubumbashi. Parce que moi, j'ai sauf l'est de la RDC que je n'ai jamais été. Mais toutes les provinces, je l'ai relié. Je vous dis sincèrement merci.
Merci beaucoup Ismaël Moupoï. Nous allons lire aussi le commentaire de Charles Kissimba. Merci pour le thème. Effectuer une visite touristique dans notre pays coûte très cher et cela est réservé à une certaine classe atypique. Nous voulons découvrir certains lieux comme Zilo, Inga, Lac Munkamba, mais avec quels moyens? Et à mon sens, ce secteur est orphelin et n'a pas assez de ressources financières. Même si on recrutait les jeunes, ils auront autant des moi impayé, alors c'est résoudre un problème en créant un autre. Voilà, Charles Kissimba Salangeta de Lubumbashi. Monsieur Lofoli, comment vous réagissez rapidement?
En tout cas, je suis très content des réactions des uns et des autres. Je crois que le monsieur du Katanga nous avait pas suivi au départ. On a parlé du côté infrastructure routière. La mobilité est un élément important dans le secteur du tourisme. Et d'ailleurs, le transport est l'un des piliers. On parle des piliers du tourisme, transport, restauration, hébergement et attraction. Donc, lorsqu'il n'y a pas de route, lorsqu'il n'y a pas des mobilités, des moyens de déplacement adéquats, c'est difficile. Alors, le dernier monsieur a parlé de la création d'emplois, même si on créait... Non, j'ai pas dit que nous devons engager les jeunes. Parce que le métier de guidage, d'ailleurs, ailleurs, c'est un métier, comment dirais-je, autodidacte, ou un métier où... Tu crées, tu commences toi-même. C'est vraiment un métier que tu peux faire sans l'État. L'État va encadrer, bien sûr. Il est vrai que pour que nous puissions relever le tourisme de notre pays, il faut relier le Congo. Il y a des pays où vous pouvez faire tout le tour par train.
Vous pouvez faire par
les eaux, par route. C'est l'un des éléments majeurs. Les infrastructures routières, le moyen de transport adéquat. Vous savez, les chutes de Kakobo, là, qui se retrouvent, je crois, à Massimani, moi, aujourd'hui. Vous pouvez arriver là-bas en 30 minutes si vous avez des TGV. Vous allez vous visiter, vous rentrez par TGV. Ailleurs, les gens sont à Paris, ils travaillent, ils habitent, je sais pas moi, dans une autre ville, mais ils viennent, ils arrivent, ils travaillent, ils rentrent, parce qu'il y a cette mobilité facilité. Donc, c'est très, très important ce que tous ont dit. La première fois que j'ai fait le lac Kivu, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. J'ai vu cette beauté-là. Nous avons passé la nuit à Idjui. Magnifique. C'est pour dire que le Congo, dans son ensemble, a du potentiel, mais que nous devons transformer. C'est comme les mines. Vous avez le diamant, mais lorsqu'il n'y a pas de raffinerie, il y a un problème. Et c'est à cela que l'État congolais, à travers le ministère du Tourisme, s'attelle, mais aussi à travers l'établissement public en charge de la promotion du tourisme, que je cite ici, l'Office national du tourisme, s'attelle pour atteindre ces objectifs-là.
Monsieur Lofoli, un conseil ou quel conseil donner à un jeune qui vous a suivi et qui souhaite devenir guide touristique?
La première des choses, instruisez-vous. Un guide, c'est comme un savant, entre guillemets. Instruisez-vous en histoire surtout, en culture, géographie. Ce sont là les basiques. Lorsque vous avez l'histoire de la destination, vous avez la géographie, où est-ce que, et vous avez l'information, la vraie, sur ce qui constitue les attractions touristiques dans votre pays, vous faites déjà un pas vers le bon guide, devenir un bon guide.
Monsieur Alain Lofoli, Mungu, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. La professionnalisation des guides touristiques apparaît donc comme un enjeu important pour le développement du secteur touristique en RDC. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission et merci pour vos questions, vos interventions. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capi Service sur Radio Capi.